Parce que moi, je dis toujours, c'est pas lourd à porter une deuxième langue, quelle qu'elle soit.
Vous êtes, comment dire, grandi avec votre langue maternelle ou avec une autre langue?
Parce qu'on voit dans ces mots, il y a la nostalgie qui est là. Peut-être même c'est des gamins qui ont grandi ici. Mais il y a quand même cette nostalgie de revenir à la langue du... Nous, on appelle ça la bouche du village. Voilà, la bouche du village, c'est le...
Ceci dit, je mets quand même un petit frein sur cette joie avec les mots. Hein. Vous avez de la joie à parler des mots. Mais une langue, c'est un peu plus. Hein.
C'est qu'il y a une abstraction du mot quand l'enfant le dit, qui n'est évidemment pas le même que ses parents disent, mais qui est évidemment... Il y a 10 000 traductions entre le mot étymologiquement parlant, on va l'appeler comment, originel, et puis ce que le gamin dit en classe, par exemple. Hein, donc il y a déjà un trajet hallucinant. Et donc quand le prof reçoit ça, le prof qui est porteur, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais qui est porteur d'un savoir, il y a une confrontation, il y a un frottement entre ce que le gamin dit... qui va devoir être traduit soit pour la classe, soit pour le prof qui ne le comprend pas, soit pour le prof qui a peur, soit pour le prof qui est ok, super ouvert, mais qui trouve que le mot n'a pas sa place là. Et donc, il y a comment on va dire ça ? Le mot en tant que tel doit être traduit pour être compris. Et...
Vous êtes, comment dire, grandi avec votre langue maternelle ou avec une autre langue ?
Et Frulan, c'est quelqu'un spécifique d'une région, en fait. Donc, c'est pas... simplement l'italien, mais c'est un italien qui vient d'une région particulière. Et ça, je trouve que c'est très, très frappant parce que quand je suis arrivée ici en Belgique, j'ai travaillé pour une partie de mon temps dans un supermarché italien. Il y avait plein d'émigrés qui venaient dans les supermarchés, donc avec lesquels j'ai parlé, et qui parlaient ou français standard ou dialecte régional italien, mais pas de tout l'italien. Et ça, c'était vraiment très frappant parce qu'en fait, ils mélangeaient ces Français qui étaient plus ou moins standards parce qu'ils l'ont appris bon, en étant ici, peut-être avec des accents régionaux aussi. S'ils venaient de Charleroi ou de Liège, ça pouvait aussi changer, j'imagine. Ça, je n'arrive pas moi-même à comprendre ça. Mais en mélangeant avec des mots qui sortaient du dialecte et qui étaient super différents d'un dialecte du nord, d'un dialecte du sud ou d'un dialecte d'une autre région. Et donc, ça, c'était aussi une très grande richesse qui n'était pas du tout... que je ne pouvais pas imaginer. Parce que pour moi, bon, moi je suis grandie à l'école avec l'italien standard et tout. Et donc c'était très, très frappant ça. Et je me demandais peut-être que... J'avais l'impression parfois aussi que beaucoup de mots... Mais ça, je lance un peu cette idée. Beaucoup de mots arabes ou congolais qui sont aussi dans les dictionnaires. Je me demande si ce sont des mots vraiment, par exemple, congolais ou s'ils font référence à une partie spécifique du Congo, à une ville, à une situation qui est encore plus spécifique par rapport à une nationalité, je veux dire. Et sa spécificité de la langue, c'est celle que, comme tu disais avant, en fait, celle qui m'a frappé aussi, que je trouve très importante dans l'écriture et dans la fiction. Parce que quand tu utilises un mot qui est super spécifique, ça te fait entrer dans un mot qui est tout de suite... quelque chose d'autre. Si tu parles simplement de pain, on pourrait prendre ce qu'on disait avant, bon, c'est du pain, ça peut être n'importe quoi, mais si tu parles d'une baguette ou d'un... J'avais repris des mots qui étaient très, très rigolos, que je trouvais comme colo, foufou, pelmenis, bodink, qui sont tous des mots de nourriture. Si tu mets ces mots dans une histoire, ça prend toute une autre relevance. Si la personne les connaît, mais même si la personne ne le connaît pas, parce que si quelqu'un me dit bodink, ça me fait penser à toute une chose. Donc, c'est ça que je trouve très, très intéressant. Voilà.
Bodink,
c'est quoi ce mot-là? Il faut virer ce mot-là, c'est quoi?
Tout à l'heure, tu me posais la question, Peter, sur comment... Comme Donatella a répondu par rapport à là où elle a grandi, comment les langues, etc. Moi, j'ai grandi dans le 9 cubes, comme on dit, et le 9-3, donc les Seine-Saint-Denis, qui est la partie est. Ouais, c'est la partie est de la banlieue parisienne, donc banlieue qui veut dire quand même lieu banni, enfin je veux dire, on est quand même dans quelque chose. Et les premières vagues d'immigration sont arrivées à l'est de Paris, parce qu'il y a, c'était une industrialisation intense, parce que les vents ne ramenait pas les mauvaises odeurs des usines sur Paris. Deuxième, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'était marécageux. Et que donc toutes les occupations précaires devaient disparaître à un moment parce que les ouvriers étaient là et puis normalement ils dégageaient. Sauf qu'évidemment ils n'ont pas dégagé. Et tous les grands HLM, ce n'étaient pas des HLM au départ, hein, c'était des préfabriqués qui ont été transformés en trucs de béton, etc. Donc moi, j'ai grandi dans cette zone marécageuse, en fait, avec plusieurs vagues d'immigration. Et donc, on est dans les Italiens dans les années 50. Enfin, comme en Belgique, enfin, à peu de choses près. Sauf que c'est plus l'Algérie que le Maroc. Un peu moins de Turcs, mais aussi plus de Polonais. Enfin, mais sinon, c'est un peu kiff-kiff, quoi, dans le truc. Donc moi, j'ai grandi, mais ça, je l'ai dit la dernière fois aussi. J'ai grandi, j'étais la seule... Alors, j'ai choqué la dernière fois Jérémy, mais j'étais la seule française. Mais j'avais mis des guillemets, mais ça ne s'est pas passé dans le micro. Mais j'étais la seule blanche, quoi. Et encore, heureusement que j'ai des yeux un peu foutus et un peu foireux, chinois, machin. Mais sinon, je passais encore pour... Et donc, voilà, on avait un langage qui était autant contre l'autorité, on en a parlé la fois passée, je ne vais pas remettre ça, mais autant contre les profs, contre l'autorité, contre nos parents, etc. Et aussi un besoin d'être ensemble plus fort, parce que c'était quand même une zone ultra-violente, quoi. Donc moi, j'ai fait partie des clans qu'on appelle les Zoulettes. Toi, tu as peut-être connu... c'est parce qu'il y en a eu aussi en Belgique. Donc les Zoulous et les Zoulettes, c'était des clans de violence qui viennent comme des gangs aux États-Unis. Et donc c'était juste aller faire les malins dans les magasins, aller faire les malins au Halles à Paris, monter sur Paris alors qu'on n'était qu'à 15 km, hein, mais monter sur Paris et aller dans le métro déjà parler mal aux gens, parler mal. C'était aussi ce truc-là, c'était, tu vois. Donc tout le verlan, les mots en arabe, et les mots congolais ou les mots camerounais, les mots... qu'est-ce qu'on avait aussi Le bapounou, enfin je sais pas si tu connais cette langue qui est une langue de... Merde, je suis en train de chercher... Libreville, le Gabon. Mais les mots comme boule dé, le cul par exemple. Donc tous les mots qui représentaient une sexualité, tous les mots qui représentaient le boule dé, c'est le cul rebondi comme ça. Non, tu vois ? Voilà. Et on portait. Bah ouais. Bah ouais. Et donc on portait des 500. Non, en bapounou. Mais je crois qu'en lingala, on dit boule aussi ou boule dé ou. Boule, hein, boule, boule ou boule dé, etc. Mais donc, on portait des 501 de mecs parce que ça nous faisait un cul rebondi, chose que, enfin, etc., etc. Donc, il y avait toute cette transformation du corps qui faisait qui passait par ces mots-là. On était tous des toubabs ou des babtous, selon que tu le disais. Donc, ça, c'est blanc. Enfin, bon. Donc, voilà, pour dire que quand je rentrais chez moi aussi, moi, ma mère, elle était horrifiée parce qu'elle comprenait absolument pas. Et en plus, je faisais tout pour ne pas me faire comprendre, évidemment, quoi. Mais ça, moi, sur la question de la langue, ça m'a jamais paru être une langue, par exemple. J'ai jamais eu cette notion de langue différente ou quoi. Pour moi, c'est là, parce que toi, tu disais à tes enfants, tu les comprends pas. Moi, j'ai pas eu. Ok, je savais que ma mère me comprenait pas, etc. Mais j'ai jamais eu cette impression que c'était une langue différente. J'avais pas catégorisé la langue avec ma mère, la langue avec ma grand-mère, la langue. Un de tes enfants, si. Enfin, moi, c'est assez nouveau, en fait, cette question de la langue étrangère, parce que pour moi, il y a toujours eu des mots...
Je pense que la langue, c'est le syntaxe, les mots et la sonorité de la langue. Et c'est les mots aussi qui font la sonorité de la langue. Et par exemple, je pense que c'est un truc très français de dire ça. Parce que le français est, pour moi, très pauvre... je vais dire une chose atroce, en vocabulaire. Je trouve, c'est pas vrai. Hein. Non, c'est pas ça que je voudrais dire. C'est le français, pour moi, presque tous les mots sonnent. Ça, c'est l'espagnol. Et pour faire un poème en français, tu peux utiliser n'importe quel mot, ça rime sur n'importe quel mot. En néerlandais, c'est pas du tout le cas. Donc, en néerlandais, on a très peu de syntaxe et beaucoup de vocabulaire, donc ça dépend un peu de la langue, quel aspect fait la langue. Et par exemple, les néerlandophones, ils sont très, très, très... C'est une langue très inventive pour les mots. Donc on peut donner un double sens, on peut inventer des mots, on peut faire des assemblages de mots qui est complètement différent en français. Donc je pense que c'est très francophone de dire c'est le syntaxe qui fait la langue. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord.
Je pense que les gens qui ne connaissent pas la grammaire et même qui ont un vocabulaire très limité sont encore capables de communiquer, d'utiliser un langage entre eux. Et donc cette notion de langage, c'est une notion de langage officiel qui est reconnue par des instituts, qui est supportée par je ne sais pas quoi, mais il y a aussi le langage qui est officieux, qui n'existe pas, même pas écrit par exemple. Il y a beaucoup de langages qui sont verbales. Et la grammaire reste aussi verbale. Donc, il n'y a pas une grammaire écrite. Et ça fait une grande différence parce que c'est une grammaire qui est flexible, qui change tout le temps. Et au moment où on le fixe, ça devient, ouais, quelque chose d'autre. C'est pas uniquement ça qui fait de la langue. C'est aussi, il y a d'autres formes de langage.
Mais
je suis sûr que vous êtes d'accord.
Non, parce qu'il faut aussi dire que peut-être on a aussi pas l'occasion de se plonger dans la grammaire de la langue scarbécoise, parce que on avait parlé par exemple avec deux filles d'origine arabe, je crois marocaine, c'était ça, qui habitaient à Scarbec, les deux stagiaires qu'on a vus, et elles nous avaient fait remarquer que apparemment une chose qui se passe souvent à Scarbec, c'est de prendre un mot arabe qui par exemple un verbe arabe qui ça veut dire travailler, et les conjuguer comme en français. Donc, maintenant, je ne me rappelle plus les mots, comment c'était en arabe, mais donc, c'est comme dire, disons que les mots, c'est... Je prends un truc comme ça, juste pour... Oui, anouche, je vais anoucher. Ou quelque chose, j'ai anouché pour dire que j'ai travaillé. Donc, effectivement, la grammaire, ça entre aussi, à un certain moment aussi. Et si on reprend aussi l'exemple des dialectes, la grammaire des dialectes, parfois, est super complexe, parfois même plus complexe que la grammaire de la langue officielle. Donc, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas eu l'occasion de se plonger dedans. Donc, pour moi, la syntaxe, ça reste quand même un jeu dans une langue.
C'est très important.
Voilà, c'est pas seulement, bien sûr, ça. Ça, je suis d'accord.
Ça s'utilise jamais n'importe comment, tous ces mots-là, de toute façon. Donc forcément, il y a une règle quelque part, même si elle est implicite, même si elle n'est pas dite. Mais il y a une règle, parce qu'on n'utilise pas le mot comme ça, parce que parfois, on saisit les mots. Moi, en tant qu'adulte, par exemple, les jeunes utilisent beaucoup de mots que je comprends pas. Mais moi, je ne pourrais jamais savoir dans quel contexte je dois l'utiliser. Je vais l'entendre, mais quand est-ce que je pourrais le répéter, ce mot, j'en sais rien, parce que je ne sais pas comment il... Je ne comprends pas, en fait. J'ai pas les codes, il y a des codes. Et c'est ça, c'est une syntaxe, elle est peut-être officieuse, comme tu dis, elle est peut-être parallèle, elle est peut-être clandestine, peut-être même, mais elle existe. Et c'est peut-être pour ça, quand tu parlais de que vous montez à Paris, que vous voulez parler contre l'autorité, contre les profs, contre enfin, tout ce qui est autorité, mais voilà, c'est un langage quelque part secret aussi, comme le verlan, comme voilà, c'est des choses, il faut les codes, il faut être initié quelque part. Alors peut-être de ce côté-là, c'est peut-être, voilà, alors il faut savoir de quel côté l'élitisme, où il se situe. C'est ça aussi. Parce que bon, là, on croit que oui, c'est le lettré qui va, il va peut-être lire ce dictionnaire. Mais de leur côté aussi, c'est une élite quelque part aussi. Ils se sont placés...
Moi, je n'ai jamais parlé d'élite.
Hein. Bah, quand je parle de... Quand... Ouais, mais quelque part, c'est ce qu'on... il n'y a pas de librairie dans le coin. Ouais, mais je sais pas, il y a des librairies, ça traîne pas les rues, ça traîne pas, il y en a une ici à la Cage aux Ours, et puis c'est tout. Hein. Avant d'en trouver une autre, il faut aller loin, il faut aller à Place Litz. Hein.
C'est